Bonjour les amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. En ce... quel jour sommes-nous ? Jeudi, je crois, 13 novembre 2025. 13 novembre, du coup, c'est une date dont on va beaucoup parler ce matin, mais on va revenir 10 ans en arrière. J'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver après un joli stream hier soir, un joli time-out. J'ai vu des petits messages dans le chat qui m'ont fait plaisir sous cette émission pour laquelle on avait mis un petit peu les petits plats dans les grands, c'est ça l'expression ? Ouais, c'était vraiment sympa, belle question, beau candidat, belle ambiance, des candidats aussi détendus et sympas qu'ils étaient concentrés et impliqués dans le jeu. Voilà. Et bravo à Simon Puech qui a gagné cette cinquième édition de Time Out, c'était cool pour ceux qui ne l'ont pas vu. Time Out, c'est mon grand jeu de culture générale, culture pop sur Twitch, avec 6 candidats, il y avait équipe garçon et équipe fille. Et c'était hier soir en live sur Twitch. Vous l'avez en replay gratuitement sur ma chaîne Twitch et vous l'avez en replay tout à l'heure aussi à partir de je dirais 15-16h sur la chaîne YouTube. J'ai senti qu'il allait gagner des débuts d'IMG. Ouais, c'était serré en vrai, tout le monde était ok. Hein. Bagheera avait l'air si stressée hier soir. Non, elle était, je crois qu'elle était contente d'être là et moi j'étais content qu'elle soit là. Non, elle était, mais en fait, c'était pas du stress, c'était de la concentration. Les candidats étaient vraiment concentrés. Comment tu spoil, j'ai pas encore vu. c'est pas un long métrage non plus, hein. Et puis franchement, de savoir que c'est Simon qui gagne, en soi, ça changera pas ton plaisir de visionnage. C'est vraiment c'est une émission de détente, quoi. C'est aussi une émission de culture, tu vas apprendre plein de trucs. C'est beau ce que dit Clément Polito. C'est pas le résultat qui est important, c'est le chemin. C'est beau. Non, ils étaient concentrés tous. Moi, je pense vraiment que tout le monde pouvait gagner. C'était pas mal. Pas trop fatigué, non. Ce qui est mignon, c'est que hier, je suis resté en plateau pour remercier l'équipe, pour remercier les sponsors. Un petit peu, j'ai traîné. On a fait des photos, vite fait. Et quand je suis retourné dans la loge où il y avait tous les candidats, ils étaient encore tous là. Donc, ils sont restés. On est resté discuter après. Souvent, chacun a un emploi du temps un petit peu chargé, donc tout le monde file. Et en fait, non, tout le monde était là, on a discuté, et je crois que tout le monde est allé prendre un verre après. Ouais. Quand je les ai quittés, ils étaient en train de se renseigner sur un café dans le coin pour prolonger la soirée. Il y a eu after, et ça m'a fait plaisir. Bon, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est d'aller avec eux, mais il y avait les journaux à lire. Il y avait la matinée Étienne à préparer. Voilà. Et maintenant, ma nouvelle méta, c'est de lire les journaux non plus tôt le matin, mais tard le soir. Parce que je me suis rendu compte qu'après un stream, en général on stream le soir ici, après un stream, le sommeil ne vient pas tout de suite. Il y a la petite adrénaline du live qui fait que, en général, je mets au moins deux heures à m'endormir. Donc désormais, cette fin de soirée à lire les journaux. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc je suis pas allé. Ouais, Sugar, je vais aller un peu plus loin, moi. Laisse-le moi. Je vais un peu plus loin parce que c'est tellement dommage. Hop, voilà. Merci Sugar en tout cas. Et donc c'était une belle soirée. Voilà. Mais il y a un monde où je serais allé prendre un verre avec eux. Donc il y avait une bonne ambiance. Et j'ai un message de Champichant dans le chat qui résonne avec l'actualité qu'on va évoquer aujourd'hui. Le Champichant qui nous dit. J'ai un concert au Bataclan demain. Je commence à angoisser un peu. Première fois que j'irai. Un peu peur de me sentir mal en y entrant. Mélange de hâte et pas hâte. Un groupe que j'attends de voir si longtemps. On va parler du Bataclan, bien sûr, ce matin. Voilà. Bon, prenons quelques minutes pour se réveiller tranquillement ensemble. Et après, on va attaquer cette matinée Étienne un peu spéciale consacrée entièrement à la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, c'était déjà il y a 10 ans. Certains disent qu'on se souvient tous où on était, ce qu'on faisait à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on va en parler. Yanouf, alors la vie se poursuit, les bêtises se poursuivent, et les choses légères se poursuivent, et c'est tant mieux. Yanouf me dit, c'est bizarre, mais je trouve que les couleurs sombres te vont mieux. Je crois que tu as raison, c'est pour ça que je m'habille toujours en bleu marine. Mais de temps en temps, coquetterie. Voilà, le sweat de ce matin, il est blanc. Voilà. Tu penses quoi de la corruption de la FIFA? Là, j'avoue, Emile, j'ai pas les dossiers, là. J'ai pas les dossiers. Merci Liptonix. Merci Solbur. Merci Pastradan. Merci Sugar Frog. Sugar qui a été le premier à sub ce matin. Merci tous les quatre. Tu t'es confondu avec ta chaise. Jolie. Elle est pas mal. Olinox, mais j'aime bien celui-là de sweat. Faut pas renverser du café dessus, quoi. C'est pas faux. Après, je suis quand même très distrait et pas très habile. Donc, c'est même un miracle que ce sweat blanc, acheté il y a quelques semaines, soit encore blanc. Merci, Diamiro. Bon, vous, comment ça va, vous? Salut les punkachas, salut Picsou. Oui, blanc crème, en vrai. En vrai, ouais. Oui, ils étaient très contents de la soirée, merci Firender. Bah, et eux, ils étaient très cool d'ailleurs. Bof, je suis triste aujourd'hui, me dit Anne Bolin. J'espère que ça va quand même. Super, me dit Sax. Un peu malade, me dit Camille. Il y a des petits virus, attention. Est-ce que tu es au... Ouais, faites gaffe au virus, là, ça... Il y a des petits nez qui coulent, il y a des petits machins, on rentre dans la saison. Là. Quoi qu'on a une hyper douceur, je crois, sur une bonne partie de la France, là, en cette fin de semaine, là, avec ça va monter à 20 degrés, notamment à Paris. Et après ça va redescendre pile poil ce qu'il faut pour tomber malade. Bon anniversaire Fleur Violette en cette date particulière. Bon anniversaire. Est-ce que tu es au Stream for Humanity? Non, El Famoso. Hier, on était avec Bagheera qui, elle, va participer à ce Stream for Humanity, qui est une très belle opération, qui commence. Merci pour Beau 06. Merci pour ton message, merci pour le soutien. Ah, merci pour le podcast. Je suis content parce que vous êtes beaucoup à écouter la matinée Étienne en podcast. À mi-septembre, on a lancé ce podcast que certains réclamaient depuis plusieurs années déjà. La matinée Étienne, à partir de 15-16 heures tous les jours, c'est un podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et vous êtes très, très nombreux à l'écouter. Voilà. Et merci à Vincent qui s'occupe de mettre la matinée Étienne en podcast. Oui, Stream for Humanity, bravo, hein. Bravo à Amine pour cette deuxième édition. Bravo aux streamers et aux streameuses qui participent. Donc, je n'y serai pas, mais je crois qu'il y a Bagheera. Je crois que Tatiana y est aussi, je crois. Hein. Lucas, tu as raison. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ça commence quand? C'est vendredi, demain? C'est ça? Pour 3 jours, peut-être? Stream for Humanity, c'est un stream caritatif. Hein, c'est ça, ça commence vendredi, vers 20h. Alors, il y a d'autres streams caritatifs en France. Celui-ci est demain vers. Ok. Il y a plusieurs associations qui pourront bénéficier de la mobilisation des streamers, des streameuses, de leur communauté. Et ça se termine par un match de foot à Jambouin, me dit Camille, comme l'an dernier. Voilà. Donc, non, j'y serai pas parce que tout simplement, je n'ai pas été invité. Et on ne s'invite pas dans ce genre d'événement, aussi cool soit-il. En général, les organisateurs invitent les proches, les streamers qu'ils connaissent, avec qui ils ont déjà fait des choses, avec qui ils sont en confiance. Je ne connais pas Amine, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, ce qu'il est, mais je ne le connais pas, on s'est jamais rencontré. Il n'y a aucune raison que je sois là-bas. Mais je donnerai toute ma force à ceux qui y sont, parce qu'en vrai, c'est super cool de faire ça. Et je pense que c'est 3 jours, hein, c'est ça, jusqu'à dimanche. Et c'est du boulot, hein, Bagheera, par exemple. Ah! Il est pas à jour? Fais voir. Je pensais l'avoir actualisé ce matin. Best of ma semaine sur Twitch, le best of 60 est arrivé. Alexandra, tu as vérifié avant de dire ça? Parce que je l'ai actualisé ce matin. Effectivement, vous avez le best of numéro 60 qui est disponible depuis hier, préparé par Mathieu. Voilà. Et Alexandra, sous mes yeux, je vois best of numéro 60. Alors, sauf erreur de ma part, c'est actualisé. Ouais. Donc, je sais. Peut-être que tu es sur une PS2. Peut-être que tu regardes sur une PS2 qui a un petit peu de délai. Mais je crois, Alexandra, que c'est actualisé. Est-ce qu'on ne regarderait pas ce best-of pour se réveiller? Non. Peut-être en fin de stream. Et je vais te dire pourquoi. L'actualité qu'on va évoquer ce matin, elle est lourde. Elle est très lourde. Tu vois, on va remuer des choses très douloureuses pour notre pays, hein, les attentats du 13 novembre 2015. Et mon best-of, c'est plutôt de la rigolade, c'est très léger, beaucoup de bêtises, beaucoup de blagues de papy, et je sens pas l'enchaînement, quoi. Éventuellement fin de stream pour changer un peu les idées, quoi. Mais pas là. Pas là. Est-ce que tu joues à Ark Raider? Non. Je vois beaucoup d'amis, hein, dessus, hein, à commencer par Simon Puech. Qui m'en parlait hier. Il y a vraiment un bel arc sur ce jeu. Moi, je suis sur un arc Dispatch, un jeu incroyable que j'ai découvert en début de semaine grâce à la communauté qui m'en a parlé en fin de semaine dernière. On a fait deux streams déjà, j'en fais un troisième ce soir, avec les deux derniers épisodes, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes qui sont sortis hier. Voilà. Et Life is Strange, ben, tu sais, Bird's Eye, Marie et Joy Phoenix, que j'ai vu. Que j'ai retrouvé hier, m'a dit, mais quand est-ce que tu reprends Life is Strange? J'ai prévu aussi ça. Ouais. Mais en tout cas, je suis content. Oh, je reviens un instant sur Time Out d'ailleurs. Waouh, il y a un message de Furavener qui est incroyable. Je devais aller à ce concert au Bataclan. Mes potes se sont désistés. J'étais devant l'entrée. J'ai décidé de ne pas y aller. Ok. Waouh. Time Out, ça vous a plu ou pas? Des choses à améliorer? Moi, c'est vraiment un jeu. Excusez-moi, je lisais un message. Il y a quelqu'un dans le chat qui vient de dire qu'il se unfollow de la chaîne. Qui se unfollow de la chaîne. Et c'est littéralement, me dit Twitch, son premier message sur cette chaîne. Alors, après, peut-être que tu es là depuis très longtemps en silence. Voilà. Mais merci en tout cas de ta participation toutes ces années. C'était un plaisir. Donc, time out alors. Voilà. Je vous lis. Belle mécanique de jeu, je connaissais pas. Top, mais il faudrait changer le présentateur. Merci Sachiel, tu régales. Merci mon ami. Bon, je trouvais plutôt pas mal. C'était super, mais les six invités qui parlent en même temps, c'était un peu le bordel des fois. C'est marrant, c'est un truc qui revient très souvent, ça. C'est un truc, ouais, c'est un truc que j'entends souvent, ça. Après, j'aime bien quand c'est le bordel, moi, mais ok. Time out de plus en plus pro comme rendu. Bravo, merci Étienne. Ok, Diesel, je pense que le replay va te plaire. Il y a un article du Monde sur Dispatch sorti en ligne hier soir. Trop bien. On ne le lira peut-être pas ce matin. Ok. Je trouve que les équipes parlent trop d'un coup sur la première manche. Le fait qu'elles aient beaucoup de questions d'affilée laisse peu de la parole à votre équipe en attendant. Ok. Oui, effectivement, MMG, à un moment, j'ai inversé deux lots sur une manche. Là. Ça, c'était my bad pour hier soir. Je changerais peut-être le bruit du buzzer. Un son différent pour chaque équipe, c'est pas con ça. Moi je trouve peut-être que le son des buzzers était pas assez fort. Ouais. Niveau micro, c'est un peu le bordel? Ok. D'accord. Tu l'as eu ton suite chez Celio? Moi je m'habille chez Celio. Je trouve que c'est des fringues de bonne qualité, simples, basiques, pas chères. Rien à voir avec le fait que j'ai fait une OP avec eux il y a quelques semaines. C'est ma marque depuis toujours. J'ai un magasin près de chez moi, c'est pratique. Il me dit: Ah, monsieur Étienne! Voilà, j'aime bien. Puis je sais pas, ils ont une espèce de mot d'ordre. Un mot d'ordre qui est, je sais pas, pas genre pas de chichi, quoi. Tout basique, quoi. Bon, j'aime bien, quoi. C'est moi, ça. Ouais, binormal. J'adore ce slogan. Binormal. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît dimanche soir avec Camille Combal d'ailleurs. Ouais, je comprends, c'est jette la bombe, ouais. Ouais. Salut, j'ai une question sincère. Pourquoi, quand vous avez de l'argent, ne pas prendre de la best qualité? Ah, en termes de fringues? Je sais pas, moi je trouve ça bien, moi. Moi ça me va. Je suis pas très. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de garçons dans mon cas, mais je suis assez basique, moi, sur les habits, quoi. J'aime bien quand c'est. À partir du moment où ça couvre le corps et que j'ai pas froid, j'aime bien, quoi. Jacob, je suis à deux doigts de te passer VIP, hein, si tu continues. Bon. On va y aller. Et on va y aller en prenant, en guise de transition entre ce bonjour et notre thème unique aujourd'hui, le message de Moulbit à l'instant dans le chat. Pour ma femme et moi, c'est aussi une journée spéciale, ce 13 novembre. On a tout quitté à Paris il y a 10 ans, jour pour jour, pour une nouvelle vie où je n'ai jamais été aussi heureux. triste événement qui est associé à jamais notre date. C'était il y a tout pile 10 ans, les attentats du 13 novembre 2015. Nous sommes le 13 novembre 2025. Et j'ai décidé ce matin de vous proposer une revue de presse, une matinée Étienne, entièrement consacrée à cette triste commémoration. Voilà. D'abord parce qu'elle est très présente dans les journaux. C'est la une de plusieurs journaux. Et j'ai pas fait ça souvent, une revue de presse consacrée à un seul sujet. Vous savez qu'en général, on traite 5, 6, 7, 8 sujets. Et j'ai trouvé que pour la mémoire des victimes, pour la marque que ces événements ont laissé dans la mémoire collective française, j'ai trouvé que c'était OK d'y consacrer toute cette matinée. Tiens, avec plusieurs articles sur ce qui s'est passé, sur la menace terroriste aujourd'hui en France, les conséquences psychologiques pour les rescapés qui ont beaucoup de mal à vivre avec ça. Et donc, je vous ai mis quelques articles de ce côté. Et puis peut-être que vous aussi, vous me direz quels souvenirs vous avez de ces événements, quoi. Et puis, plusieurs viewers, Camille, t'as raison, me l'avaient demandé. Depuis plusieurs jours, je voyais dans le chat des messages en mode « Mais est-ce que tu vas faire une spéciale pour le 13 novembre ?» et en fait, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et puis, ce matin, enfin hier soir, en lisant les journaux, je me suis dit « Bah, ils ont raison. C'est ce qu'on va faire. » Ouais. Merci Toutoun. Merci Urmind. Merci. Merci Chaolytique, pardon, joli pseudo. Merci Mimi Silvada, merci Camille Over. Comme le dit MMG, impossible de passer à côté. En vrai temps, comme tu l'as dit, les médias commémorent cette date. Ouais. Et les souvenirs, vous les avez. Betamesh, pas à Paris, mais j'étais aussi à un concert. On a vu l'artiste se décomposer sur scène en l'apprenant. Cégote, c'était vraiment le premier événement qui m'a marqué. J'étais en prépa, on n'avait rien vu de la journée avec les cours. Le soir, ce fut le choc. Un souvenir de Liptonic. Le 13 novembre, j'étais dans mon canapé avec des amis à regarder Nos Jours Heureux. Un ami CRS a été appelé et mobilisé sur le champ. Voilà, c'est Ton Palomba qui écrit dans le chat Twitch. On sait tous où on était le soir du 13 novembre. On va commencer peut-être par rappeler les faits, ce qui s'est passé. Voilà. Avant d'aller lire les journaux, parce que ce qui m'a étonné dans les journaux ce matin, c'est que finalement les journaux partent du principe finalement que tout le monde se rappelle précisément de ce qui s'est passé et sont dans l'analyse de ce qui s'est passé, dans les conséquences, bizarrement j'ai pas trouvé d'article qui rappelait basiquement les faits avant d'aller plus loin. Donc je propose de commencer par ça. Voilà. Je suis allé faire un tour ce matin sur la page Wikipédia des attentats du 13 novembre 2015. Alors, les pages Wiki, elles sont plus ou moins réussies selon les sujets. Parfois, elles sont approximatives. Parfois, elles sont incomplètes. Mais parfois, elles sont assez carrées. Et c'est le cas ce matin, je trouve. Twitch, je viens de vous mettre cette scène. Je vous la mets également sur TikTok. Voici. Voilà. Rappel des faits. Attentat du 13 novembre 2015 en France. Pour ceux qui nous rejoignent, pardon, on commence cette revue de presse ce jeudi qui est entièrement consacrée à la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Donc en live sur Twitch et TikTok ce matin, en replay sur Twitch et YouTube et en podcast audio. Bienvenue à ceux qui nous écoutent également en podcast audio. Tous les après-midi, c'est posté de 15 à 16 heures sur toutes les plateformes audio en podcast. Les attentats du 13 novembre 2015 en France. Série de fusillades et d'attaques suicides perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie aussi. Il n'y a pas eu que le Bataclan. par trois commandos islamistes distincts et revendiqués par l'organisation terroriste État islamique. Je vous rappelle juste les faits. Le bilan des victimes fait état de 130 morts et 413 blessés hospitalisés, 99 blessés en situation d'urgence absolue. Il y a Alexandra qui me demande, mais tu as oublié le sommaire. Alors, il n'y a pas de sommaire, parce qu'il n'y a qu'un seul thème. Ce matin, je le répète à nouveau, c'est une matinée Étienne spéciale attentat du 13 novembre 2015. Du coup, il n'y a pas de sommaire, vous l'avez compris. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France. Et les deuxièmes en Europe, hors attentats aériens. Alors, les attaques, puisqu'il y en a eu plusieurs. Une première attaque à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, ça commence là, où se joue un match amical de football France-Allemagne. Le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer dans l'enceinte du stade, les trois terroristes se font exploser dans ce qui constitue les tout premiers attentats suicides en France. Imaginez si les terroristes avaient pu rentrer dans le Stade de France. D'autres attaques ont ensuite eu lieu à Paris, dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements, où trois individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. L'attaque la plus longue, la plus meurtrière, celle dont tout le monde se souvient, qui fait 90 morts et de nombreux blessés, a lieu dans la salle de spectacle parisienne du Bataclan. On est également dans le 11e arrondissement de Paris, où environ 1500 personnes assistaient ce soir-là au concert d'un groupe américain de rock qui s'appelle les Eagles of Death Metal, et où trois autres terroristes ouvrent le feu sur le public avant que les forces de l'ordre finissent par donner l'assaut et abattre ces trois terroristes. C'est un acte de guerre commis par une armée terroriste Daesh. C'était la déclaration du président de la République de l'époque, François Hollande, la nuit des attentats. La gravité de la situation est telle que le gouvernement décrète l'état d'urgence sur tout le territoire national. Une première depuis le putsch d'Alger de 1958, situation exceptionnelle. La police et la gendarmerie effectuent de nombreux contrôles dans tout le pays pour traquer les criminels en fuite, prévenir de futures attaques. On s'est demandé si d'autres attentats étaient prévus. Tandis que le président de la République rencontre tour à tour les grands dirigeants mondiaux pour tenter de mettre sur pied une coalition élargie pour détruire Daesh dans ses fiefs de Syrie et d'Irak. Le belgo-marocain Abdelhamid Abaoud, qui selon les autorités françaises joue un rôle déterminant dans l'organisation des attentats, considéré comme le cerveau des attentats, est tué en même temps que ses deux complices le 18 novembre 2015 lors d'un assaut donné par les forces de l'ordre à Saint-Denis. À la suite de ces attentats liés à la Belgique et en raison du risque de nouvelles attaques, les autorités belges placent Bruxelles, cette fois en état d'alerte maximale, du 21 au 26 novembre 2015. Et l'unique survivant des commandos responsables des attaques, Salah Abdeslam, est capturé par la police belge dans la commune bruxelloise de Molenbeek après 4 mois de fuite. Cette même cellule terroriste franco-belge, constitué autour d'Abdelhamid Abaoud et dirigé depuis Raqqa, coordonne les attentats déjoués à Verviers en janvier 2015. La tentative d'attentat, dont vous vous souvenez peut-être aussi du train Thalys le 21 août 2015, et les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Ces attentats, on est à la fin de ce petit rappel des faits, s'inscrivent dans une campagne de l'État islamique visant à multiplier les attaques en Europe. Son porte-parole Al-Adnani ayant appelé dès septembre 2014 à viser plus particulièrement la France. Présenté comme une vengeance vis-à-vis des frappes aériennes de la coalition internationale, les attentats viseraient aussi un but stratégique, à savoir provoquer des affrontements communautaires et une montée du racisme en Europe afin de favoriser le recrutement de djihadistes pour l'organisation. 18 accusés sont jugés à Paris. Il y a eu un procès. À partir du 8 septembre 2021, le 29 juin 2022, la plus grande audience criminelle jamais organisée en France livre son verdict. Les 20 peines vont de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible. Cette dernière est appliquée à Salah Abdeslam, qu'on évoquait tout à l'heure, ainsi qu'à 5 terroristes présumés morts. Voilà pour ce rappel rapide des faits. Avant de lire les journaux ce matin, et d'évoquer les conséquences finalement de ces attentats, je voulais, euh, Je voulais commencer par là. Je vous lis. Ah oui, alors je vois quelqu'un depuis tout à l'heure qui dit oui, c'est triste, mais il y a des choses qui tuent plus. Bon, la personne, en l'occurrence, là, évoque les féminicides, mais j'ai vu ce genre de commentaires aussi sur Internet ces derniers jours. Ah oui, mais alors les accidents de la route, ça tue plus. Alors j'ai vu quelqu'un qui disait aussi, mais la pollution de l'air. Ça tue plus, il y a des gens qui disent ça. En fait, tu peux prendre ça pour quasiment n'importe quelle maladie grave en France. Évidemment, ça n'a rien à voir. Évidemment, ça n'a rien à voir. D'évoquer ces événements tragiques pour notre pays, d'évoquer le fait qu'à un moment, des gens décident de prendre la vie d'autres en raison d'idéaux slash de folie meurtrière, évidemment, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, quoi. Donc, bon, on a eu un message là-dessus. J'adore parce qu'il y a Armiette qui dit comparer féminicide et accident de la route. Oula, la même personne. Citons-la puisque c'est cette personne qui est là-dessus. Et donc, alors que Armiette vient elle-même de comparer les attentats de Daesh et les féminicides, c'est-à-dire littéralement des choses qui ne peuvent pas être comparées, quoi. Donc, Armiette, je pense qu'on a compris ton propos. Il y a une. Énormément de gens dans le chat TikTok là, qui te parlent, qui sont choqués par tes propos. On a compris ton point de vue. Il est erroné. Maintenant, je pense que tu peux arrêter. Bon, je pense qu'on a compris. Voilà. Armiette reviendra demain nous parler sûrement d'autres sujets. Est-ce qu'on peut commencer cette revue de presse? Ok, Toki, c'est une spéciale attentat du 13 novembre 2015 ce matin. Allons-y. On va commencer par la une du Parisien. Voilà. Merci Bactarus pour ton message. Le Parisien, ou plusieurs journaux, hein, c'est le cas de Libération ce matin notamment, mais du Parisien aussi, consacre la une et vraiment un nombre très important de pages à cette commémoration. 13 novembre 2015, je trouve, pour moi, c'est une des unes les plus fortes ce matin sur le sujet. Cette nuit qui nous hante encore, il y a 10 ans, une attaque terroriste islamiste sans précédent en France touchait Paris. Faisant finalement 132 morts. Aucun rescapé n'est aujourd'hui indemne. Et ces attentats résonnent toujours dans notre quotidien. Je vis dans une prison à ciel ouvert, témoigne celle qui a permis la localisation d'Abdelhamid Abaoud. Voilà. On va lire l'édito d'abord, peut-être de Nicolas Charbonneau sur le sujet. Puis je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça. Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien. Chacun son 13 novembre. D'Original Pimous écrit dans le chat 10 ans que j'ai recueilli mon meilleur pote chez moi ce soir-là, après qu'il ait été rescapé de la salle de concert. Que dit-il, monsieur Charbonneau? Le 13 novembre 2015, le soir où Daesh déclare la guerre à la France, 130 personnes vont mourir au cœur de Paris. Vous voyez d'ailleurs que le bilan. En une du Parisien est de 132 morts, et que Nicolas Charbonneau parle de 130 morts le soir. Je crois qu'on a rajouté, mais vous allez me le préciser, deux victimes qui sont des personnes, je crois, j'en suis sûr au moins pour une des deux, qui se sont suicidées après. Hein? Je crois qu'on a rajouté ces deux personnes. Voilà. Ne supportant pas le poids de ce qu'elles avaient vécu. Voilà. D'où les 132 morts en une du Parisien alors que, voilà, c'est ça, ce sont deux suicides qui ont été ajoutés. Alors que Nicolas Charbonneau parle de 130 morts le soir même. Et les deux infos sont justes en fait. Les deux infos sont justes. D'où ce hiatus entre les deux bilans. Donc le 13 novembre 2015, le soir où Daesh déclare la guerre à la France, 130 personnes vont mourir au cœur de Paris. Des femmes et des hommes, souvent jeunes, qui avaient en commun d'aimer la vie et la culture, la musique et les amis, le plaisir de boire un verre et de sourire. Tout ce que détestent les terroristes qui les abattent, parfois en leur tirant dans le dos. Notre liberté de vivre ensemble, fauchée par ceux qui n'ont d'autre objectif que d'imposer les ténèbres, tordre nos valeurs et pour cela semer la terreur. 10 années ont passé, mais rien n'est oublié. Et finalement, c'est le message que veulent faire passer les journaux ce matin. 10 années ont passé, mais rien n'est oublié. Cette nuit-là, merci Astro, nous avons perdu notre insouciance et vivons désormais une forme d'intranquillité permanente. Chacun son histoire, chacun sa soirée, chacun ses souvenirs. Vous êtes très nombreux à les évoquer. Nadia nous dit dans le chat, à l'instant, du côté TikTok, « Mon ami blessé ce jour-là au Bataclan vit l'enfer depuis 10 ans, tellement de vie fauchée. » Chacun son histoire, chacun sa soirée, chacun ses souvenirs. Il y a ceux qui ont vécu le drame au plus près, qui préfèrent le silence. Il y a ceux qui ont attendu tard dans la nuit l'appel qui les rassurerait. Ce dont ont témoigné notamment les forces de l'ordre qui sont intervenues et puis les équipes médicales, c'est que quand ils sont arrivés notamment au Bataclan, il y avait plein de téléphones qui sonnaient dans le vide. Les téléphones des victimes sur lesquels appelaient les proches, les amis, la famille qui avaient appris dans les médias ce qui s'était passé et qui se disaient mais je crois que il était, elle était dans ce quartier, il était, elle était, je crois même à ce concert, voilà. Et appelait et les téléphones sonnaient dans le vide. Ceux qui ont attendu tard dans la nuit l'appel qui les rassurait, ceux qui n'ont pas été touchés directement, mais qui se souviennent de ce qu'ils faisaient, où ils étaient, avec qui, lorsque cela s'est produit. Il y a des amitiés qui se sont nouées, des mains qui se sont serrées, et ce quelque chose d'indicible dans chaque parcours, chacun son 13 novembre, c'est la somme de ces minicules histoires personnelles qui font notre mémoire collective. Tchekhov écrivait qu'il fallait enterrer les morts et réparer les vivants. C'est effectivement le moyen le plus humain d'avancer, lutter contre ce terrorisme infiltré qui veut détruire nos démocraties. Car ne nous y trompons pas, et ça on va beaucoup l'évoquer ce matin aussi, cela peut revenir. La bête est terrée, surveillée par le travail remarquable de nos forces de sécurité, mais elle n'est aujourd'hui absolument pas terrassée. Nivacrin écrit dans le chat Twitch, je travaille dans l'appui aux forces de l'ordre et notamment dans l'aide aux policiers blessés. J'ai organisé il y a quelque temps une semaine de cohésion pour des policiers blessés gravement, physiquement ou psychologiquement. L'un d'eux était dans la première équipe d'intervention au Bataclan, après la BRI. Son récit était particulièrement dur à entendre et 10 ans après, cela est pour lui toujours aussi dur à raconter. Il y a Fabs qui écrit dans le chat, franchement, je pense que je vais quitter le stream, c'est trop lourd. Force à vous en cette journée de recueil. Major Phoenix vient d'écrire dans le chat, côté TikTok, ma sœur s'est réfugiée dans un immeuble au hasard avec un pote qui avait une clé de postier. Salut Framboise, merci. Voilà pour ce premier édito du Parisien, de Nicolas Cherbourg. Je ne suis pas toujours d'accord avec Hidako, il suffit de lire, il n'y a pas de sommaire, regarde. Pour ceux qui demandent, mais il est où le sommaire? C'est littéralement écrit sur votre écran, La Matinée Étienne, spéciale attentat du 13 novembre 2015. Une spéciale dans le langage courant et notamment médiatique, c'est une émission entièrement consacrée à un sujet. Donc, c'est littéralement écrit. Alors, je suis pas toujours d'accord avec les éditos de Nicolas Charbonneau, mais pour le coup, je trouve que celui-ci est bien écrit et pertinent. Comme si c'était hier, c'était le titre de ce premier article du Parisien. Peur dans les transports, dans des lieux bondés, hyper-vigilance. Les Français restent marqués durablement par les attentats de Paris, témoignage. Des bouquets de fleurs blanches, des bougies, des dessins d'enfants et ces mots manuscrits, 130 étoiles qu'on n'oubliera pas. Un silence respectueux entoure ce mercredi la statue de la République, lieu de recueillement et d'hommage aux 132 victimes. Vous avez compris pourquoi il y a un hiatus, on l'a parlé tout à l'heure, des attentats du 13 novembre 2015. Parmi la cinquantaine de personnes présentes, touristes et parisiens, dont beaucoup de jeunes, Andrea, accroupie devant la barrière de sécurité, venue avec sa fille de 5 ans, je viens de lui dire qu'il y a 10 ans, des méchants sont venus sur Paris, commente la berlinoise qui est devenue parisienne et qui garde des souvenirs indélébiles de cette soirée. Ailleurs dans la capitale, le même sentiment, devant le parvis de la gare Montparnasse, où elle vient d'arriver en train en provenance de Haute-Garonne, Laetitia scrute son environnement, l'air sombre. Dès que j'arrive en ville et que je vois du monde, je me dis que ça peut arriver, là, un attentat. Ce qui s'est passé en 2015, ça ne s'efface pas. Comme cette mère de famille, combien sont-ils, ces Français, à envisager le pire ou à penser régulièrement, dans la rue, dans les transports, en buvant un verre dans un bar, à la soirée du 13 novembre 2015, comment adaptent-ils leur vie? Je ne sais pas si dans le chat vous êtes concerné, mais bon, pour le coup, en tant que journaliste, je me suis penché sur plein d'attentats ces 30 dernières années, en France et à l'étranger, dans certains pays européens et ailleurs encore. Il y a eu des attentats dans des gares, parfois extrêmement sanglants, avant 2015. Et vous, je ne sais pas quel est votre rapport à la foule, mais notamment quand je prends le train dans une gare et dans une gare bondée, parisienne par exemple, personnellement je pense toujours à ça, quoi. Et je pense que je ne suis pas tout seul dans ce cas, quoi. Clément me dit, quand je rentre dans une pièce publique, je repère les sorties immédiatement. Iboulet, où que j'aille, je regarde toujours où je peux partir le plus vite possible. La foule, je ne peux plus du tout, me dit le cocon de Nini. Ratax, c'était déjà très parano dans les lieux publics, bien avant 2015, à checker les issues, ça n'a pas changé depuis. Toujours une pensée en mode, me dit Black Pearl, et si. Lils, je regarde toujours où sont les sorties. Zbulsama, je regarde toujours la sortie de secours la plus proche maintenant. Major Phoenix, je ne vais plus dans les lieux bondés, je prends le bus, fini le métro à Paris. Doudlisa, je fais totalement partie de ces personnes. Avant le Bataclan, j'allais dans des concerts de rock totalement insouciantes. Par la suite, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse à cause de ces idées. Moi, c'est à chaque fois que je suis dans les gares parisiennes, l'enfer, toujours des gens bizarres. Léna Cassia, je ne peux pas m'empêcher de regarder les issues de secours les plus proches quand je vais à des concerts. Donc, le constat que font les journaux ce matin, que 10 ans après, nous sommes encore collectivement marqués par ce qui s'est passé là, je pense qu'ils ne se trompent pas beaucoup, quoi, à lire les messages ce matin. Bartivan dans le chat. Mon ami d'enfance est décédé au Bataclan. J'ai été à une centaine de concerts avec lui. Emmanuel était un homme en or. Il laisse une femme et deux enfants à qui il manquera pour toujours paix à son âme. Comme cette mère de famille, je reprends l'article du Parisien. Combien sont-ils, ces Français, à envisager le pire ou à penser régulièrement dans la rue, dans les transports, en buvant un verre, dans un bar, en terrasse, à cette soirée, comment adaptent-ils leur vie ? Dans son enquête de santé publique post-attentat, sur l'évolution de l'impact psychotraumatique et l'utilisation des dispositifs de prise en charge après ces attentats de 2015, l'épidémiologiste Philippe Pirard mesure les parcours de soins des personnes concernées, directement ou indirectement, se basant sur les données de la Sécurité sociale. Un ouvrage qui vient de sortir se penche aussi sur les effets à long terme de l'événement sur la population en général. Voilà. Et on voit à vous lire ce matin que ces effets à long terme sur la population en général sont bien là. Ces attentats occupent une place centrale dans la mémoire des Français. Ils incarnent un traumatisme collectif d'une ampleur inédite dans l'histoire récente. C'est ce qu'explique le collectif d'auteurs d'un livre qui s'appelle « Faire face des Français les attentats du 13 novembre » qui est sorti fin octobre. Il y a une mémoire persistante dans la société avec des souvenirs flash. En 2016, 97% des Français se rappelaient de ce qu'ils ont fait ce soir-là, souligne Francis Eustache, qui est un neuropsychologue et chercheur. Il y a chez les Français une corrélation très forte entre l'émotion et la mémoire. D'après ce livre, au-delà des victimes directes des attentats, on a vu dans le chat ce matin que certains connaissaient des victimes, l'immense majorité des Français a pu être marquée indirectement en regardant des images sur Internet ou à la télévision, ou en écoutant des victimes parler. Et cela davantage que lors de précédents attentats, comme ceux de Charlie Hebdo en janvier 2015, au cours desquels une profession et un journal spécifique avaient été visés. Hein, parce que Charlie Hebdo, c'était en janvier 2015. Les coups psychiques du 13 novembre ont été importants. Physiquement, cela a pu se traduire par des troubles du sommeil, de l'alimentation. Merci Dodi pour ton message. On n'a jamais récupéré à l'échelle de la société le sentiment de sécurité qu'on avait auparavant. C'est ce qu'explique Mathilde Thiberguin, qui est psychologue à Bordeaux. À chacun ses sujets de fixation. Et là, on va retrouver des commentaires qui font écho à ce qu'on a lu tout à l'heure dans le chat. C'est quand je traverse une foule que j'y pense, raconte Philippe, parisien de 65 ans. La dernière fois, c'était il y a une semaine, il y avait un problème sur le RER A à Châtelet et j'ai eu une angoisse. Frédéric, qui partage sa vie entre la capitale et la Mayenne, ne veut plus remettre les pieds au Bataclan. Je continue à m'asseoir en terrasse, dit-il, mais quand je suis à un concert, je regarde les sorties. Pour Corentin aussi, les concerts sont synonymes désormais de stress, comme les événements sportifs. Léna Cassia, dans le chat, nous dit « Je fais régulièrement des cauchemars sur des attentats. Le mois dernier, j'en ai fait au moins 3. » Notre naïveté s'est envolée ce jour-là, dit Alice. Pour Corentin, donc, les concerts sont synonymes de stress, comme les événements sportifs, une angoisse que cet habitant de Dax, de 27 ans, ressent aussi quand il se trouve à Paris. Je suis méfiant, dit-il, j'ai tendance à regarder ce qui se passe autour de moi. Clarisse, elle, ne se sentait pas traumatisée jusqu'à cet été 2024, donc récemment, où pendant ses vacances à Barcelone, des pétards ont explosé à quelques mètres de la terrasse où elle était. Je suis parti en courant, j'ai fondu en larmes, j'étais inconsolable, raconte la Parisienne. Autour de moi, personne n'avait réagi. Une séance chez le psy m'a fait réaliser que ce 13 novembre m'avait marqué beaucoup plus que je ne voulais bien le croire. Des citoyens ont donc ainsi développé une hypervigilance, certains avec des flashbacks, des troubles anxieux qu'ils soignent avec des addictions parfois comme l'alcool, explique Yann Oxemery, qui est psychiatre à Paris. C'est comme si on avait désormais conscience du risque de chaque instant, résume Laetitia, qui a eu 2 enfants. Depuis, je les protège sans doute un peu trop, dit cette maman. Eux aussi, avec des exercices attentats à l'école, grandissent dans une société où le risque est présent. Pour ceux qui ont des enfants, notamment des enfants en bas âge, dans le chat. Je ne sais pas si vous avez été surpris par ça, mais vous savez, régulièrement dans les écoles et très régulièrement chaque année, il y a des exercices anti-attentats, vous savez, où on demande aux enfants de se mettre sous les tables, les bureaux, etc. Dans l'espace public aussi, les dispositifs sécuritaires se sont développés devant les quais de gare, aux entrées des musées, des entreprises, des portiques de sécurité sont monnaie courante. C'est ça, Baoni me dit, oui, mes filles m'en ont parlé ce matin, elles l'ont fait lundi, ma fille en a fait un la semaine passée. Pour les plus âgés, souvenez-vous, quand nous avons connu notre parcours scolaire, nous n'avions pas d'exercice antiterroriste à l'école, quoi. Voilà. Samus me dit, oui, les miens, mes enfants, savent quoi faire effectivement un cache-cache géant dans le silence. Donc ces enfants en bas âge que je suis en train d'évoquer, qui n'ont pas forcément de souvenirs ou de connaissances de ces attentats, malgré tout, aujourd'hui, dans leur cadre éducatif, il y a des choses qui y relient, quoi. Je travaille en crèche, me dit Fanny, on fait également des exercices en cas d'intrusion, c'est très angoissant. Et ça a forcément des répercussions sur la santé mentale et l'anxiété généralisée des plus jeunes. Narco, je suis d'accord avec toi. Désormais, on apprend des gestes élémentaires aux enfants, comme se cacher sous les tables. C'est l'article. Ça les place en situation d'anxiété. Ça n'est pas anodin pour l'état global de notre société. Décrypte Sébastien Ledoux, qui est historien de la mémoire et des pratiques éducatives. Pour lui, ces événements ont accru un sentiment généralisé, finalement, dans notre société, de vulnérabilité et une culture du risque de l'attentat dans la société. Et contribuer, quelqu'un le disait dans le chat, et il y a des spécialistes de la santé mentale qui sont d'accord avec toi, à dégrader la santé mentale des jeunes ces dernières années. Mais les enseignements peuvent émerger également du pire. Pour Yann Oxemery, la société est ressortie plus forte de cette épreuve. En 10 ans, la prise en charge du traumatisme en général des troubles de stress post-traumatique s'est améliorée dans notre pays. Les connaissances et la recherche sur le sujet ont progressé. Quelque chose s'est passé. Le nombre de psychologues formés à l'EMDR, la psychothérapie par mouvement oculaire qui cible les mémoires traumatiques des individus, a doublé, précise Delphine Pecoul. Cette période nous a aussi démontré notre capacité à faire société, à nous remettre ensemble à toute vitesse. D'un seul coup, on peut se réunir, remarque Philippe, 65 ans. Les périodes de commémoration, comme celle des 10 ans, servent aussi à faire corps et à rester soudés, même si ces anniversaires ont tendance à réactiver des symptômes aussi chez certains. Mais on garde Yann Oxemery. Le cabinet de ce psy est situé non loin des terrasses du 11e arrondissement frappé par les attentats. Et il témoigne, le quartier est régulièrement bouclé. On retrouve dans nos cabinets des gens qui ont essayé de tenir le coup toutes ces années. Sans consulter, des années plus tard, ils prennent enfin conscience de leurs symptômes. Je vous lis. Malgré toutes les explications, les reconstitutions, me dit Tchoukadi, je n'arriverai jamais à me présenter le cauchemar que ces gens ont vécu, force à eux. Salut Chaussette Live, je comprends très bien, je te souhaite une très bonne journée. Alors aujourd'hui, Une des questions qu'on va se poser ce matin, c'est quelle est la menace terroriste qui pèse contre notre pays aujourd'hui, en 2025, 10 ans après. Et je vous ai mis un article de côté là-dessus. Mais d'abord, je vais continuer avec Le Parisien. Moi, j'ai envie de prendre le temps ce matin sur ce sujet, qui sera donc le sujet unique de la matinée Étienne, parce qu'il me semble important que collectivement, en fait, on revienne sur ce qui s'est passé et sur ce que ça et sur les conséquences que ça a pu avoir sur notre pays. Là, par exemple, on a un historien qui est aussi directeur scientifique du programme 13 novembre qui a donné une interview au Parisien. Léa, je pense que tu as écrit à peu près une dizaine de fois ton message. Je pense que tu peux arrêter de spammer. Merci beaucoup. C'est pour le chat TikTok. Il s'appelle Denis Pechanski. Nous l'avons rencontré, explique le Parisien, il y a quelques semaines, en marge d'une soirée autour du 13 novembre, à l'université de Caen. C'est à cette occasion que Denis Pechanski a accepté de nous livrer les enseignements de ce travail de recherche. De quoi s'agit-il? On va le voir. Historien, neurologue, psychiatre se sont attelés à la tâche. L'étude hors norme explore la construction de la mémoire des attaques de Saint-Denis et de Paris, non seulement sur le mémoire individuel des personnes qui les ont vécues de près ou de loin, mais aussi sur la mémoire collective de la société. Un travail évoqué dans le film 13 novembre, Nos vies en éclats. Alors ce programme de recherche a commencé juste après les attentats. Vous vouliez sonder les ondes de ce choc ancré dans notre histoire. Est-ce que c'est un pari réussi, demande le Parisien. Denis Pechanski, l'étude 1000 au cœur de la démarche a permis d'interroger 1000 personnes touchées indirectement ou directement. Voilà. 2700 témoignages, 4500 heures d'entretien. Imaginez la richesse patrimoniale. Nous avons également demandé une série de sondages au CREDOC, dont l'objet est la mémoire d'un événement sur le long cours, pour avoir une vision de ce qui se passe, non plus chez les premiers touchés, mais dans la population encore aujourd'hui. Merci Drakeos pour ce raid, Drakeos qui se penche sur l'actualité chaque matin, et je suis sûr que ce matin il vous a parlé de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Est-ce que le souvenir de ces attaques s'érode aujourd'hui en France? S'érode-t-il? La mémoire individuelle des victimes et des familles endeuillées est encore terriblement en souffrance. Le suicide de Fred, l'un des piliers de l'association Life for Paris, l'année dernière, montre que les attentats sont encore très, très présents. J'espère sincèrement qu'il sera la dernière victime du 13 novembre. Notre programme scientifique a fait d'importantes avancées pour lutter contre le stress post-traumatique. Comment un événement unique qui a duré entre 1 minute et 3 heures au maximum bouleverse les cerveaux. Et dans le grand public, demande le Parisien, et le chercheur, l'historien répond, nous avons mis en lumière une condensation mémorielle. Par exemple, sur les lieux, les attentats du 13 novembre ont frappé Saint-Denis, des terrasses parisiennes, la salle de concert du Bataclan. Le cerveau est économe pour ne pas encombrer la mémoire, il ne garde qu'un seul fait. Ce faisant, les autres victimes, les oubliées, les omises, vivent dans une double peine qui entretient leur pathologie. Par exemple, j'ai lu ce matin dans les journaux des victimes des attentats au Stade de France, donc qui ne sont pas mortes, mais qui ont été marquées dans leur chair ou dans leur esprit, et qui se sentent un peu délaissés en estimant que finalement les gens ne se souviennent que du Bataclan. Une autre question que le Parisien pose aux chercheurs, c'est est-ce que le procès, vous savez, on a parlé du procès tout à l'heure du 13 novembre, entre septembre 2021 et mai 2022, a pu remettre à jour le souvenir des attentats? Et le chercheur répond oui. Le procès a été un grand moment. On voit bien comment pendant ces 10 mois de procès, la dialectique entre mémoire individuelle et mémoire collective s'est mise à l'œuvre. À partir des drames individuels des victimes, des témoins, des proches endeuillés, les médias ont construit, ont partagé un grand récit. La somme des écrits, des émissions de télé ont participé à cette mémoire collective. Et ce faisant, ont enrichi les souvenirs individuels. D'où l'importance du jardin de la mémoire qui va être inauguré à l'hôtel de ville. Le musée mémorial du terrorisme sera primordial aussi. Le Parisien a consacré bien plus que ces 3 pages que je vous ai lues au sujet. C'est un gros dossier. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire Le Parisien ce matin. Et on va faire ce travail également avec Libération aussi. Édito. Les éditos de Libération sont souvent assez réussis. Celui du Parisien l'était pas mal aussi. Merci Le Lucien. Merci encore Astro. Merci Red Bull Casa. Merci Glitch Factory. Merci Aquatonio. Édito de Hamdam Mostafavi dans Libération. Édito, un article où le journaliste donne son avis, son analyse sur un sujet. Fracture. Face à l'horreur du 13 novembre 2015, la France a connu quelques semaines d'unité nationale. La meilleure des réponses à ces terroristes qui avaient voulu tuer le bonheur, comme l'écrivait alors Libération à l'époque, cette unité s'est ensuite fracturée sur la question de la déchéance de nationalité pour les terroristes, une erreur de calcul politique de François Hollande qui pensait ainsi prolonger l'union du moment, mais qui aura agi comme révélateur des divisions. Combien de fractures d'alors ne se sont pas refermées ? Le 13 novembre 2015, la France découvrait avec effroi que des jeunes gens, élevés sur son sol, pouvaient être hermétiques aux valeurs de la République et prôner le djihad. Avons-nous vraiment réussi à transmettre l'idéal laïque et républicain ? Depuis, il y a eu les assassinats de Samuel Paty, Dominique Bernard, les deux enseignants, tués parce que prof. Dans le sillage de cette funeste année 2015, s'en sont suivis une montée de l'islamophobie. Merci Jeannot pour les 5 abonnements offerts à la commu. De l'islamophobie, certains à droite et à l'extrême droite s'empressant. Merci Kedzak, merci pour l'abonnement offert à la commu. Certains à droite et à l'extrême droite s'empressant de faire des amalgames ainsi qu'une montée de l'antisémitisme. Les attentats de 2015 ont montré de la façon la plus tragique comment ce qui se passait au Moyen-Orient pouvait toucher nos sociétés. Merci Camillette. Mais le 13 novembre, ce sont surtout des visages fauchés trop tôt et des survivants marqués à vie. Nous avons voulu, explique Libération ce matin, leur donner la parole pour évoquer la reconstruction. C'est après forcément douloureux, mais où de la souffrance naît aussi une ode à la vie. Aujourd'hui, la République est chahutée, morcelée, attaquée, mais elle est là. Le monde a changé, nous aussi. L'État islamique n'étant plus sa terreur aujourd'hui sur tout le Moyen-Orient et notre capacité à faire face à la menace djihadiste s'est améliorée. Ce 13 novembre aura certes fait basculer toute une génération dans l'horreur, merci Fouerdom, mais 10 ans après, ce que nous n'avons pas perdu, c'est notre capacité à être vivant, à être insouciant, à être parisien, à être en terrasse. Voilà pour cet édito. Merci Oldinox pour ton message que je mets de côté avec plaisir. Merci à toi. Alors, une des questions sur laquelle on va se pencher ce matin, c'est quelle est la menace terroriste qui pèse aujourd'hui sur nos sociétés, 10 ans après les attentats de 2015. Merci Zazu Noam. Salut Fouerdom, bienvenue. Et on a un article dans Libération, qui est une interview d'un chercheur qui s'appelle Marc Ecker, qui est directeur de l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales, qui nous dit notamment ce matin, les pays occidentaux restent effectivement des cibles de la menace terroriste. Un chercheur qui rappelle le risque d'attaque djihadiste et qui souligne les objectifs de déstabilisation des sociétés, de nos sociétés, commun aux tentatives d'attentats également d'extrême droite. Lisons cette interview. Libération écrit, 10 ans après les attentats du 13 novembre, les menaces terroristes en France ont évolué, même si les attaques djihadistes demeurent la principale préoccupation. En miroir, l'extrême droite s'agite de plus en plus et l'assassinat de Hichem Mirawi le 31 mai à Puget-sur-Argens dans le Var a vu le parquet national antiterroriste se saisir pour la première fois en France d'une attaque à l'origine identitaire. Nous en avions parlé ici. Selon Marc Ecker, donc le chercheur, les deux mouvances terroristes, islamistes et d'extrême droite, poursuivent le même objectif, à savoir polariser notre pays. Question de libération. Entre la perte d'influence des organisations djihadistes étrangères, les attaques isolées sur le territoire et la montée des violences venues d'extrême droite, où en est la menace terroriste en France 10 ans après le 13 novembre 2015 ? Merci beaucoup, Le Griot. Réponse du chercheur. D'un point de vue administratif, nous sommes remontés au niveau d'alerte le plus élevé, à savoir urgence attentat, après l'attentat du Crocus City Hall à Moscou en mars 2024. En termes d'attentats réussis et déjoués, enfin réussis, vous avez compris, il y a des guillemets, hein, le djihadisme reste nettement devant l'ultra-droite. Si on regarde depuis l'été 2024 et les Jeux Olympiques, 6 attaques ont abouti, 5 sont djihadistes, une vient de l'ultra-droite. Ce sont des attaques qui font peu de morts mais qui maintiennent un niveau d'alerte élevé. Merci Fanny 500. Il y a Audlinox qui me dit « J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie en plan Vigipirate, c'est fou ». Merci Fanny 500. Mais la menace a changé de forme, nous dit Libé. Il y a 10 ans, Daesh était une organisation terroriste structurée, et vous vous en souvenez peut-être, hein, qui contrôlait des territoires, notamment en zone syro-irakienne. Son califat se voulait mondial, avec des provinces comme dans différents pays, comme la Libye ou l'Afghanistan. Des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers la Syrie à l'époque, dont 5 000 à 6 000 Européens, parmi lesquels le contingent français était le plus important. Vous vous souvenez de ces Français qui partaient en Syrie notamment pour se former au djihad. Et parfois avec l'objectif de revenir provoquer des attentats sur notre territoire. Depuis ce sanctuaire, Daesh a prouvé sa capacité à entraîner des combattants et à les projeter vers l'Europe pour mener des attaques. Aujourd'hui, la configuration historique et géographique est très différente de cette époque-là. Le califat territorial de Daesh a disparu sous les coups de boutoir de ses adversaires, dont la coalition internationale. Dans d'autres zones, Al-Qaïda est l'acteur principal, comme au Sahel. Au Mali, on en parlait hier, Bamako pourrait chuter à court terme. Les djihadistes, au Mali, leur projet, c'est de recréer le califat. Il y a au moins 3 fronts actuellement en Afrique. Ceci sans compter le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, alliés historiques d'Al-Qaïda, qui, selon un rapport récent de l'ONU, aurait constitué de nouveaux camps d'entraînement. Ces organisations sont globalement affaiblies, mais elles conservent localement de réelles capacités. Question de Libé. Est-ce que Daesh ou Al-Qaïda ont encore la volonté ou les moyens de s'attaquer directement à l'Occident ? Est-ce que de nouveaux attentats type 13 novembre sont possibles? Merci Raven Club. Dans la propagande djihadiste, répond l'historien, les pays occidentaux restent des cibles. Il y a eu des menaces explicites contre la France avant les derniers Jeux Olympiques. Mais il semble que ni Daesh, ni Al-Qaïda ne soient aujourd'hui capables de projeter des commandos au cœur de la France. Ils peuvent néanmoins toujours tenter de téléguider depuis l'étranger des individus qui se trouvent en Europe. C'était le cas avant les Jeux Olympiques avec l'attaque déjouée à Saint-Étienne, par exemple. Ce terrorisme téléguidé n'est pas nouveau, dit Libé. Non, en fait, il existe 3 types d'actions qui s'entremêlent depuis 20 ans. Le terrorisme projeté, l'envoi d'un commando entraîné à l'étranger, demande une organisation très sophistiquée. Le téléguidage demande de repérer depuis l'étranger sur les réseaux sociaux des personnes en France qui souhaitent faire partie de la mouvance djihadiste. Enfin, on parle beaucoup aujourd'hui du terrorisme d'inspiration, mais celui-ci date d'avant Daesh. À la fin des années 2000, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, publie un web magazine appelé en anglais Inspire. L'idée était de susciter des vocations djihadistes dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, pour parler de ce phénomène, certains en parlaient dans le chat d'ailleurs, on parle d'ubérisation du terrorisme.
Généralement, ces terroristes utilisent des modes opératoires low cost comme le couteau ou la voiture bélier. Ce terrorisme d'inspiration est devenu le plus fréquent. Aujourd'hui, une action de type 13 novembre paraît donc improbable, redit. Ok, Joël, merci, bonne journée. Aujourd'hui, une action de type 13 novembre paraît improbable, mais la stratégie des 1000 entailles, et qui veut qu'on harcèle un pays à l'aide d'une multitude d'attaques d'ampleur réduite, reste d'actualité. Concernant les profils de ces djihadistes inspirés, les statistiques montrent un certain rajeunissement. Et le chercheur répond, même s'il y avait des jeunes déjà en 2015, notamment dans les départs en Syrie, le PNAT, le parquet national antiterroriste, souligne que la proportion de jeunes passant à l'acte est aujourd'hui très importante. Plus de 70% des personnes arrêtées depuis 2023 ont moins de 21 ans. Le chiffre est assez fou en fait. Plus de 70% des personnes arrêtées depuis 2023 dans des enquêtes antiterroristes ont moins de 21 ans. Sur la question du pourquoi, il faudrait se pencher sur les méthodes de recrutement depuis TikTok ou les forums de jeux vidéo. Ce rajeunissement s'observe aussi à l'ultra-droite, même si les groupuscules de cette mouvance sont plus divers en âge. Merci Caprimode. Le sort de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et la réponse d'Israël, sont-ils des leviers actionnés dans la propagande djihadiste? C'est une question qui est très intéressante. L'historien répond, la Palestine, historiquement, est une cause mobilisatrice pour la mouvance djihadiste. Daesh n'est pas un allié du Hamas, mais il a appelé à attaquer des cibles, notamment juives. Cette guerre à Gaza est remise dans un contexte plus large d'oppression du monde musulman par les populations occidentales. Question de libération, dans votre livre Daesh au pays des merveilles, vous imaginez une attaque d'ampleur contre des musulmans venant de l'extrême droite après le 13 novembre. Cela n'est pas arrivé, mais les projets venus de l'extrême droite sont en augmentation. Réponse du chercheur. L'objectif des djihadistes était de déclencher des surréactions, de polariser la société jusqu'à ce qu'elle implose. En 2016, le directeur général de la sécurité intérieure a anticipé une grande confrontation, en France notamment, entre l'ultra-droite et les musulmans. Cette confrontation n'a pas eu lieu, du moins pour le moment. Dernière question de Libé. On a vu plusieurs représentants de partis de droite et d'extrême droite se moquer des conclusions du rapport de l'historien Nicolas Lebourg sur les violences d'extrême droite. Cette menace est-elle suffisamment prise au sérieux? Réponse. Les autorités sont vigilantes. En témoigne le nombre d'arrestations et d'attentats déjoués. Un pays peut faire face à plusieurs menaces qui peuvent d'ailleurs avoir des objectifs en commun, comme celui de déclencher une guerre civile. Les djihadistes veulent créer le chaos afin de rétablir un ordre considéré comme islamiquement pur. L'ultra-droite, en particulier la mouvance dite accélérationniste, veut provoquer la guerre civile tant que les blancs chrétiens ont l'avantage démographique. Pour cette mouvance, l'attentat sera l'étincelle qui déclenchera l'affrontement. Voilà pour l'analyse de cet historien, de ce chercheur qui nous dit en fait qu'il y a une mouvance de l'ultra-droite. Pour ceux qui se posent la question, quelle est la définition de l'ultra-droite, quelle est la différence entre l'extrême droite et l'ultra-droite? L'ultra-droite est une extrême droite qui a le projet de recourir à la violence. Et selon ce chercheur, cette ultra-droite, elle n'attend qu'un nouvel attentat terroriste islamiste dans notre pays pour passer à l'action. Voilà pour cette interview. Je vous lis un petit peu et puis j'enchaîne. il y a une extrême droite qui n'utilise pas la violence. Oui, Maïbro, on peut estimer que un parti comme le Rassemblement National en France, qui est un parti d'extrême droite, n'en déplaise à ceux qui veulent vous expliquer à tort que le RN est fondamentalement et structurellement différent du FN. Enfin, c'est la même chose. Mais le Rassemblement National, dans son projet de conquérir le pouvoir, utilise les urnes, les élections, reste dans le cadre démocratique. La violence peut être verbale, mais elle n'est pas, y a pas de stratégie de violence pour imposer ses idées. C'est la différence avec ce qu'on appelle l'ultra-droite. L'humanité consacre également sa une à cette commémoration. Nicolas John, attention, le RN n'est pas un parti extrémiste, attention, il faut le prouver. Je n'ai rien à prouver, c'est déjà prouvé, il suffit de se pencher un minimum sur le sujet. Ce n'est pas parce que Marine Le Pen et d'autres affirment que le RN n'est pas un parti d'extrême droite, c'est ce que Marine Le Pen répète depuis toujours. Moi, j'affirme ici, haut et clair, voilà. C'est un sujet que j'étudie depuis plus de 30 ans, que le Rassemblement National est un parti d'extrême droite. Voilà. On a parlé de longues heures déjà ici, et on aura l'occasion d'en reparler si tu veux, puisque à l'occasion de 2027, de l'élection présidentielle, quelque chose me dit qu'on reparlera de ce sujet. C'est la une de l'humanité. 13 novembre, mémoire à vif. À l'automne 2015, Paris et Saint-Denis étaient frappés par une série d'attentats qui ont fait 132 morts. On voit bien le bilan de 132 morts, et 413 blessés, des survivants, des policiers, des agents territoriaux, racontent cette nuit de carnage. Hein, 10 ans après, la menace djihadiste n'a pas disparu. Tiens, je fais une petite parenthèse sur pourquoi le RN est un parti d'extrême droite, puisque certains qui viennent peut-être pour la première fois sur cette chaîne n'ont peut-être pas participé à nos échanges sur le sujet depuis 5 ans. Le Rassemblement National est un parti d'extrême droite pour plein de raisons. Le Rassemblement National est un parti d'extrême droite, d'abord parce que historiquement c'est un parti qui a été fondé par des néo-nazis, par des collabos. Pour comprendre un mouvement politique, il faut revenir à ses racines et à son histoire. Le RN n'est qu'un changement d'appellation marketing d'un parti qui s'appelait le Front National, qui a été créé par ces gens. Le Rassemblement National et le Front National, qui sont le même parti, hein, avec les mêmes élus, avec les mêmes cadres, avec les mêmes responsables, est un parti dont les dirigeants se sont illustrés tout au long de son histoire par des déclarations antisémites, racistes, qui ont d'ailleurs mené à des condamnations en justice. Le Rassemblement National, pour parler de la forme la plus moderne de ce parti, le Rassemblement National est un parti dont les membres, dont les élus, dont les sympathisants, dont les militants sont régulièrement, aujourd'hui encore, condamnés, notamment pour des propos racistes. Il suffit de faire un petit Google rapide là-dessus, tu verras, on ne parle pas d'histoire, on parle juste d'actualité. Le Rassemblement National est, comme le Front National, un parti qui met la préférence nationale et le rejet de la différence, de l'autre, qui met cette notion-là au cœur de son programme. C'est le seul parti en France, enfin, vous pouvez rajouter Zemmour aussi, et puis Ciotti, tout ça, mais c'est le parti en France, le seul gros parti en France, qui met au cœur de son programme la question de l'immigration. Voilà. Pour toutes ces raisons, on pourrait passer un live entier, le Rassemblement National est, à mes yeux, un parti d'extrême droite. C'est amusant parce que quand je donne tous ces arguments, les mêmes comme Tetel55 qui nous explique depuis tout à l'heure que le RN n'est pas un parti d'extrême droite, passent à autre chose et nous disent « Oui, mais alors, et les filles alors ?» Alors, c'est très intéressant. Mais à un moment, quand on vous met les arguments, vous passez à autre chose, quoi. Ça montre bien que ces arguments vous gênent un petit peu quand même. Après, ce ne sont que des mots, hein. C'est qu'une étiquette. Mais, voilà. Mon analyse à moi, c'est que le Rassemblement National, pour quand on s'intéresse un minimum à l'histoire politique de notre pays, eh bien, si on veut cataloguer les partis, eh bien, on met ce parti à l'extrême droite. Et c'est pas parce qu'un nombre croissant de Français vote pour ce parti, ce n'est pas parce qu'un nombre croissant de Français souhaite que ce parti arrive au pouvoir que mon analyse va changer. Voilà. C'est mon analyse depuis toujours. Elle est renforcée par l'histoire et l'actualité de ce parti. Mais c'est pas parce que ce vote grimpe, monte, progresse en France que je vais me mettre à hurler avec les loups. Et si un représentant de ce parti arrive au pouvoir en 2027, est élu président ou présidente de la République en 2027, cela ne changera rien. Ce candidat sera toujours issu d'un parti d'extrême droite. Rendez-vous en 2027. Après, je le rappelle pour ceux qui sont un peu nouveaux sur cette chaîne, que ce n'est que mon avis, que mon analyse, partagée par d'autres, notamment par le Conseil d'État, peu importe, et que vous avez tout à fait le droit d'avoir un autre avis sur le sujet et de l'exprimer ici, exprimer dans ce chat ici, que ce soit sur TikTok ou Twitch, que le RN n'est pas un parti d'extrême droite, n'implique pas que vous soyez banni de ce chat. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'accepte que vous l'exprimiez ici. Parce que rester entre soi, rester qu'avec des gens qui pensent comme vous, ça n'a aucun intérêt. S'enfermer dans une bulle informationnelle, ne consommer que des médias qui disent comme vous, ne fréquenter que des gens qui pensent comme vous, n'échanger qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous, ça n'a aucun intérêt. Ça nous enferme tous dans des bulles où nous sommes persuadés d'avoir raison, contre les autres. Voilà. Et donc, tant que vous l'exprimez correctement, sans insulte, ici, vous pourrez continuer à venir dans ce chat et me dire que j'ai tort. Mais c'est ma chaîne. Et j'ai encore le droit d'exprimer le fait que le RN est un parti d'extrême droite. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Par contre, j'attends vos arguments. Et je ne suis pas convaincu par les arguments des gens aujourd'hui qui me disent que le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Hein. Quand je les vois s'exprimer, parce que de temps en temps... le RN n'est pas un parti d'extrême droite, dans mon chat, j'en vois souvent, j'en vois tous les jours. Mais des arguments qui viennent me démontrer que dans son actualité... dans son programme, dans son histoire, dans ses fondations, dans son ADN, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Pardon, mais les arguments, je les attends et je les entends pas, quoi. Salut Wonder Woman, bisous à toi et à ton papa. Voilà, Stein Okabe dit « C'est factuel, j'ai beau le soutenir en partie, le RN, me dit Stein Okabe, c'est l'extrême droite. » Jean-Marie Le Pen n'avait aucun souci avec cette étiquette d'ailleurs. C'est Marine Le Pen, sa fille, qui s'est lancée dans une entreprise de dédiabolisation de son parti pour le faire arriver au pouvoir, qui est très embêté par cette étiquette. Parce que c'est une étiquette qu'elle ne trouve pas intéressante pour conquérir le vote d'une majorité de Français. Après, il y a des électeurs et des militants RN qui sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont d'extrême droite, on va dire les plus radicaux, les plus militants. Mais ça gêne, en revanche, ses dirigeants. Dans leur conquête du pouvoir. Ça gêne aussi ceux qui votent RN, mais qui n'ont pas envie de cette étiquette, qui ne veulent pas l'assumer. Bon, moi, personnellement, ça ne me gêne pas de continuer à appliquer cette étiquette. Après, je suis toujours ouvert au débat et aux arguments. Le jour où quelqu'un dans ce chat arrivera avec des arguments construits, convaincants, sourcés, pour m'expliquer que le RN n'est pas un parti d'extrême droite, je le lirai avec beaucoup d'attention. Mais encore une fois, ça n'est qu'un avis, et cet avis, vous avez le droit de le remettre en cause. Lisons le dossier d'Humanité sur les attentats du 13 novembre 2015, après cette parenthèse. Mémoire à vif. Édito. Bon, attention, amis et supporters du RN, nous lisons à partir de ce moment l'Humanité, qui est un journal communiste. Essayez de ne pas vous mettre en PLS tout de suite. Parfois, dans le camp d'en face, dans le camp adverse, dans le camp des gens qui ne pensent pas comme vous, il y a des choses intéressantes aussi. Trafiquant de haine. C'est le titre de l'édito. La justice a fait son œuvre, mais bien des questions soulevées par la vague de terreur du 13 novembre 2015 continuent de travailler notre pays. Un pays épuisé, abîmé par les coups qui pleuvent sur lui sans trêve. Au Bataclan, sur les terrasses, au Stade de France, ces attentats furent les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français. 132 morts, 413 blessés, et autour d'eux, tant de vies fracassées. L'Est parisien et la Seine-Saint-Denis portent aujourd'hui encore ces balafres invisibles, ces douleurs fantômes de celles qui ravivent l'effroi, le deuil ou la colère. Nous savons tout du but des tueurs islamistes: fracturer la société, aiguiser les haines, dresser les citoyens les uns contre les autres. Et quand je vois certains commentaires dans le chat, et quand je suis l'évolution du paysage politique français et le résultat des élections les unes après les autres, j'ai l'impression que l'objectif de ces terroristes est en partie atteint. Je relis cette phrase. Nous savons tous du but des tueurs islamistes: fracturer la société, aiguiser les haines, dresser les citoyens les uns contre les autres. L'extrême droite, toujours prête à se repaître des divisions, s'est ruée sur le malheur. 10 ans ont passé, mais la crainte d'un nouveau déchaînement de violence ne s'est pas évanouie. Les trafiquants de fanatisme n'ont pas rendu les armes et les aspirants djihadistes sont toujours plus jeunes. Solitaires, hyperconnectés, abreuvés de discours incendiaires et d'images insoutenables sur Internet, ils tombent dans la religion comme on tombe dans le vide. Et pendant ces 10 ans, les lois d'exception se sont empilées. L'état d'urgence gravé dans le droit commun est devenu la norme. La surveillance s'est étendue au détriment des droits fondamentaux. La haine des musulmans, des arabes, se déverse à l'envi sur les plateaux télévisés, dans l'espace public et jusque dans le monde académique. On est en 2025. Régulièrement, je croise dans ma vie IRL, en dehors des réseaux et de Twitch, des gens que la vie fait que je suis... que je suis amené à connaître, à croiser, pour diverses raisons, qui expriment, sans détour, sans retenue, sans gêne, des propos infiniment racistes. Il y a une parole aujourd'hui qui s'est libérée, qui s'est banalisée, qui sont des propos raciste. Voilà. Encouragé par certains médias d'ailleurs, où sur ces plateaux, cette parole est normale, acceptée, acceptable, banalisée. D'ailleurs, quand j'entends des propos comme ça dans mon entourage, je pose de façon anodine la question de savoir quels sont les médias consommés par ces personnes. Et en général, ces médias sont toujours les mêmes, d'ailleurs. On a combien de chaînes d'infos en France ? Il y a BFM, il y a France Info, il y a CNews, il m'en manque une, non ? Il y a LCI, c'est ça ? Et étrangement, ces gens consomment toujours la même chaîne d'infos, d'ailleurs. Voilà. C'est la fameuse bulle informationnelle dont je vous parlais. Voilà. Après tout, puisque ces chroniqueurs tiennent ce genre de propos en plateau, c'est que ça doit être OK, quoi. La haine des musulmans, je reprends mon propos, des Arabes se déverse à l'envi sur les plateaux télé, dans l'espace public et jusque dans le monde académique. L'élection du socialiste Zoran Mamdani à la mairie de New York éclabousse à présent de racisme les deux rives de l'Atlantique. La République pourtant ne se défend jamais en renonçant à l'égalité. La mémoire des victimes du 13 novembre nous oblige. Elle nous commande de combattre les discours de haine, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur cible. Elle nous invite à renouer des solidarités, à construire une société juste, unie, fraternelle, capable de résister aux assauts de terreur et de violence comme aux tentations autoritaires. For the Kiki. Par contre, la bulle France Info, Libé, Humanité, c'est OK? Ici, on n'est pas vraiment dans une bulle, puisque tu vois, je viens de te lire. Une bulle informationnelle, c'est une bulle qui refuserait d'entendre la parole des autres. Les gens ici qui viennent crier vive le RN ou que sais-je, ces mots parviennent jusqu'à nous, vous savez, vous n'êtes pas sanctionnés, quoi. Donc nous ne sommes pas ici dans une bulle. On vous lit, on vous entend, mais c'est juste qu'on n'est pas convaincu par vos arguments, quoi. C'est peut-être ce qui vous énerve le plus d'ailleurs. Quels arguments demande Caprimoud? Bah, je sais pas, je cherche toujours. Puis en plus, on lit le Figaro ici, hein. Et des éditos parfois dans le Figaro et des éditos dans le Parisien ces derniers mois aussi qui sont pas tellement dans la bulle informationnelle Libé, France Info, Huma que tu viens d'évoquer. Le blanc était tellement long que mon son était coupé. Oh, enfin, arrêtez de parler de couleurs, hein, de blanc, de noir, c'est affreux. Le petit Camus pose une question intéressante dans le chat TikTok. Est-ce que être humaniste aujourd'hui est devenu has-been? Voilà pour l'édito donc de Rosa Moussaoui dans Luma. Et lisons maintenant l'article de Luma qui revient sur les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Le titre, c'est un témoignage de quelqu'un qui était au Bataclan, je crois. Quelqu'un est mort contre moi, j'ai senti le froid le prendre. Merci Planet Escape. Stéphanie et Michel étaient dans la fosse du Bataclan. Il y a 10 ans, le soir de l'attentat. Aujourd'hui, alors que Stéphanie n'est toujours pas indemnisée, il reste profondément marqué par cette nuit d'horreur. Ils sont... Alors je préviens les plus sensibles, la séquence, elle est un peu dure. Ils sont face contre terre dans la fosse du Bataclan. Tu te tais, tu bouges pas, on va survivre, vient de murmurer Michel à Stéphanie. Elle a réussi à lui attraper le petit doigt et gila immobile, soudé à lui par ce minuscule morceau de chair. Notre bulle d'humanité, raconte Michel, comme il y en a eu des centaines d'autres ce soir-là, à quelques mètres devant eux. On est dans la fosse du Bataclan. Des corps en château de cartes. Il y a un instant, pendant que les terroristes rechargeaient leurs armes, ils sont des dizaines à avoir tenté de fuir. Les tirs les ont fauchés. Stéphanie et Michel, miraculeusement, ont échappé aux balles. Leur course, 4 mètres à peine, s'est achevée là, au beau milieu de la salle. On a juste eu le temps d'échanger un regard, se souvient Michel. Dans le visage de Stéphanie, il n'a pas lu la peur, c'était plutôt l'effacement, la mort. Autour d'eux, les terroristes vont et viennent. Là, on est en train d'essayer de comprendre ce qu'ont vécu les gens qui ont vécu le Bataclan. Bouge pas. Détonation. Je t'avais dit de pas bouger. Un jeune homme les insulte, une jeune fille les supplie. Tous deux sont aussitôt abattus. Mais morts, dit tendrement Stéphanie. Cette soirée devait être une fête. Leur première sortie depuis la naissance de Bastien, 7 mois plus tôt. Pour lui, pour cet enfant, il faut survivre. Mon cerveau a déconnecté, ça m'a permis de rester calme, dit Stéphanie. Michel, à l'inverse, se met en hypervigilance. Je suranalysais tout. J'essayais de comprendre le déroulé de ce qui se passait. Odeur de poudre, râle d'agonie, sonnerie de téléphone. Quelqu'un est mort contre moi ce soir, murmure-t-il. J'ai senti le froid le prendre. Les tirs des terroristes s'éloignent, puis se rapprochent. Après chaque série, tu espères que c'est la dernière, dit Michel. Le bruit du chargeur qu'on remplace, de la culasse qu'on réarme, les shoots reprennent. Tu te dis que cette fois, forcément, ce sera pour toi. La peur de mourir sur un coup de dé est une véritable torture. Alors Michel tente de rationaliser l'apocalypse. Il accepte l'idée de la mort pour rester calme et se donner une chance d'y échapper. Il convoque la lettre volée, nouvelle d'Edgar Allan Poe, dont les protagonistes cherchent en vain un document qui se trouve devant eux. On était sous le nez des terroristes, peut-être qu'ils ne nous verraient pas, veut se convaincre Michel, penser, ne pas mourir. Un policier de la BAC vient de tirer sur le terroriste posté sur la scène. Le fracas de la ceinture qui explose est épouvantable. Michel et Stéphanie reçoivent en pluie des bouts d'on ne sait quoi. Ils pensent que le bâtiment va s'effondrer, il reste figé. Les deux derniers assaillants parcourent l'étage, on entend des tirs sporadiques, ils se barricadent avec des otages et face à la police qui gagne du terrain, tentent de négocier n'importe quoi. C'était presque comique, raconte Michel. Autour d'eux, des hommes en cagoule, noirs, se déploient en aboyant des ordres. On n'a pas cru tout de suite que c'était la police. Michel, le premier, ose tourner la tête. Il se lève, il aide Stéphanie à se mettre debout. Ils enjambent des corps, commencent à sentir l'air frais du dehors. Une dernière fouille, les voilà sommés de courir, les mains sur la tête vers le boulevard Voltaire et puis plus rien. L'aide aux victimes, ça a été un thé et quelques gâteaux. Indique Michel, ni psychologue, ni avocat, aucun conseil, on te laisse te démerder tout seul, abonde Stéphanie. À partir de ce soir-là, Bastien cesse de s'alimenter, je crois que c'est leur fils, c'est ça, qui a quelques mois. Il ne nous reconnaît pas, il ne vous reconnaît pas, leur explique-t-on. Pour se remettre sur des rails et vivre, tout simplement, ses parents décident, 10 jours plus tard après les attentats. Merci, Alstan. Ils décident de reprendre leur travail. Cauchemar, idée suicidaire, hypersensibilité, dépression, et cette gentillesse maladroite des proches qui n'y comprennent rien. Stéphanie est plusieurs fois licenciée. Michel n'arrive pas à honorer ses contrats. Il multiplie à leurs frais l'échéance chez le psy, pousse la porte d'une association de victimes et se retrouve comme des dizaines d'autres confrontés à une épreuve inattendue, obtenir une indemnisation. Le fonds de garantie devient un nouveau cauchemar, ces rendez-vous d'expertise infligés par des médecins assureurs se transforment en séance d'accusation. Les propositions financières sont indigentes. À un moment, ça n'est plus le Bataclan, c'est le sentiment d'injustice qui nourrissait mes insomnies, dit Michel, qui a été finalement indemnisé l'an dernier. 2024. 9 ans après les attentats. Donc 9 ans à porter ça, quoi. Tout va bien. On me laisse dans un néant, en rage, Stéphanie, qui n'a toujours pas, elle, perçu un centime. Ce soir-là, à travers nous, c'est la France qui a été visée. Elle est où, la solidarité ? Au procès des attentats, les condamnations leur ont paru dérisoires. Mais ils se disent fiers, collectivement, que la parole se soit imposée face à la violence. On ne se répare jamais d'un truc pareil, constate-t-il. Ils se sont mariés. Ils prennent soin l'un de l'autre. Ils s'aiment. Il y a Bastien, leur enfant. Mais la lutte au quotidien contre les images invasives les épuise. 3 mois après le Bataclan, le groupe Eagles Of Death Metal offrait un concert à l'Olympia aux survivants de la tuerie, en dépit des suppliques de Stéphanie qui refuse de le voir repartir dans l'épicentre de l'enfer, en dépit d'une peur bleue contre laquelle il lutte à grand renfort de science chez le psy, Michel décide d'assister à ce concert. J'ai foi dans la musique, dit-il, ne pas y aller, c'était renoncer à vivre. Dans le public, visage blême, des yeux rougis, on se dévisage, on lutte contre l'angoisse. T'es là, toi aussi, tu t'en es sorti. Certains manquent à l'appel. D'autres sont en chaise roulante. Tous sont très jeunes. Sauf un homme. Un vieux type, avec des cheveux blancs, tout seul dans son coin, l'air complètement perdu. Premier riff de guitare, Michel ressent une énorme décharge d'électricité. Un truc super bon, dit-il. Dans la foule qui s'agite à l'unisson, le vieillard est totalement déchaîné. À ce moment, j'ai compris que c'était forcément le père d'une victime, dit Michel, et j'ai vu derrière chacune des silhouettes l'ombre de nos morts. Il est fort article, il est intéressant parce que il nous fait toucher quand même du doigt ce qu'ont vécu les survivants de ces attentats, et en fait que le fait que 10 ans après, le poids soit encore extrêmement lourd à porter, quoi. Voilà. Donc il est lourd, mais je pense qu'il est... En fait, c'était il y a 10 ans déjà. Et ça peut être loin de nous. Mais en fait, ce que nous invite à comprendre cet article, c'est que pour certaines personnes, c'est pas très loin, quoi. C'est aussi l'intérêt de ces articles ce matin. On va terminer cette revue de presse un peu spéciale, uniquement consacrée à ce sujet, parce que j'aurais trouvé étrange de vous parler d'autre chose ce matin. Je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé de faire des revues de presse uniquement consacrées à un seul sujet, mais par respect pour tout ça, justement, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Puis demain, on pensera sur d'autres actualités, bien sûr. Mais on va finir cette revue de presse un peu spéciale par cet éditorial dans Le Monde sur ces attentats. Stade de France, Bataclan, Carillon, Petit Cambodge, c'était les terrasses des bars, des restaurants. Le sinistre vendredi 13 novembre 2015 a transformé ces lieux de réjouissance collective en théâtre de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de notre pays. Chacun se souvient de l'endroit où il se trouvait lorsqu'a commencé cette nuit d'horreur qui, avec les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère commis 10 mois plus tôt, a achevé d'inscrire le terrorisme islamiste dans le paysage français. Dix ans plus tard, l'heure est à l'hommage aux victimes de cette série de tueries aveugles revendiquées par Al-Qaïda et par l'organisation État islamique. Le 13 novembre a provoqué la mort de 132 personnes et a fait plus de 400 blessés physiques et des milliers de blessés psychologiques. Mais l'importance de cet anniversaire dépasse largement les aspects commémoratifs formels sur lesquels on a beaucoup insisté ensemble ce matin. Après le temps de la sidération et des réactions, après celui de la justice, on a parlé du procès historique de plus de 10 mois, 2021-2022, est venu celui de la mémoire. Non pour mettre à distance des drames qui ont d'ailleurs connu de multiples répliques depuis lors, mais pour en tisser le récit le plus complet possible et en tirer les leçons. L'une d'entre elles, l'une de ces leçons, tient à l'articulation entre la mémoire traumatique individuelle des victimes et des témoins et la mémoire nationale. À la somme de témoignages journalistiques Recueillis après les attaques et au moment du procès, aux nombreuses créations littéraires et télévisuelles s'ajoutent les milliers de témoignages audiovisuels, les dizaines de thèses de doctorat issues d'un programme de recherche scientifique porté par le CNRS. Désireux de répondre à la barbarie par la science, les travaux du CNRS ont ainsi permis d'établir que la plasticité cérébrale agissant sur les mécanismes de contrôle de la mémoire peut atténuer, voire guérir, les troubles de stress post-traumatique. Prouver également l'importance du soutien des proches dans ce processus de résilience fait présumer du rôle de l'empathie sociale dans l'évolution de la collectivité après de pareils chocs. À mon humble avis, notre société aujourd'hui manque singulièrement, en tout cas manque d'empathie sociale. De ce point de vue, bien des questions demeurent pendantes, car la France de Nice à Saint-Étienne-du-Rouvray et de la décapitation de Samuel Paty et l'assassinat de Dominique Bernard n'a cessé durant ces 10 années de subir le traumatisme répété d'attentats islamistes. Si le dessein des terroristes consistant à provoquer la peur, des représailles contre les musulmans de France et la radicalisation de ces derniers a globalement échoué, si Paris meurtri voilà 10 ans brille à nouveau dans le monde, les attentats de 2015 ont servi de prétexte à la montée d'une violence d'ultra-droite anti-musulmane. Ils ont aussi suscité une série de reculs de liberté publique et accentué une focalisation des discours de la droite et de l'extrême droite sur l'islam, dont les conséquences politiques ne finissent pas d'être mesurées. 2027, baby. La mémoire commune qui invite à consolider ce triste anniversaire peut s'appuyer sur la résilience somme toute remarquable du pays. Mais elle porte aussi en elle des avertissements. Celui de la vigilance à l'égard de toutes les formes d'attaque contre le vivre ensemble. Celui aussi de ne pas tomber dans aucun des pièges tendu par les terroristes. Voilà les amis. Nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet ce matin. Nous y avons consacré un peu de temps, je crois, malgré tout. 1h48. Enfin, on va dire 1h15. Puisqu'on avait fait... On s'est parlé un petit peu au début. Mais voilà, je touche... Donc cette revue de presse est un petit peu plus courte que d'habitude, mais... J'avais pas envie de parler d'autre chose ce matin. Enfin, j'avais pas envie de mélanger ça à autre chose ce matin. Le autre chose, le reste de l'actualité, politique, sociale, économique, culturelle, scientifique, tech, ce sera demain, bien sûr. Puisqu'on essaye de. On fait une revue de presse tous les matins. Ben. Et puis, c'est. Et puis. Ce que j'ai aussi compris et constaté ce matin, c'est que ces articles qu'on a lus parlent beaucoup de vivre ensemble. Vous avez remarqué ? De comment réparer le vivre ensemble, comment ne pas abîmer le vivre ensemble, comment faire société, comment faire preuve d'empathie. Et en fait, ce dont je prends conscience aussi, faisant cet exercice, c'est que lire ces articles tout seul dans son coin, c'est une chose. Mais les lire ensemble et en parler ensemble et parler de tous ces sujets ensemble, parler de ce qui nous rassemble et aussi parler de ce qui nous divise et parler de ce qui nous oppose, c'est bien plus fort et c'est bien plus intéressant. Voilà. Ce que j'aime ici, vous l'avez compris, c'est d'être ensemble pour parler des choses, pour tenter de créer du lien, de faire du lien, de se rendre compte que malgré nos différences, on peut s'accorder, on peut se parler en tout cas, on peut s'écouter. Il y a des gens dans le chat ici, et c'est tant mieux, qui ne sont pas d'accord avec les quelques idées, les quelques valeurs que je peux évoquer, mettre en avant parfois. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Parce que l'objectif ici, c'est pas de se mettre d'accord. Il y a Telos qui dit « accordez-vous ». L'objectif ici, c'est pas de se mettre d'accord. C'est de créer un espace où, au moins... on peut se parler. Voilà. Alors si on est d'accord, c'est super, mais ça ne nous emmène pas très très loin. Et si on n'est pas d'accord, ben au moins on peut en parler. Et qu'il reste encore dans notre société des espaces où on puisse se parler, malgré nos différences, nos oppositions. Mes idées, mes avis, mes opinions, mes valeurs, ne sont que le fruit d'un parcours qui n'est que mon parcours, qui est le parcours d'un gars blanc, européen, français, né en 1971, avec dans une certaine famille, dans lesquelles il y avait certaines valeurs, qui ensuite s'est formé avec des lectures, des rencontres, des études, un travail. Et il est évident que avec un autre parcours, je serais parvenu à d'autres à d'autres idées. Donc, voilà. Accepter qu'on puisse ne pas être d'accord, c'est déjà le début de quelque chose. Mais c'est ce que j'aime bien dans cette revue de presse. Le truc, c'est qu'on a rapidement le réflexe, dit Jolan, de se poser en mettant ceux qui ont un discours différent dans une catégorie sans aller plus loin, en restant à cette étape sans chercher à comprendre ou expliquer. Exactement.
C'est ça.
C'est ça. Crillon dit « Je ne suis pas d'accord avec pas mal de choses, mais en effet, c'est nécessaire de parler de ce sujet frontalement. Merci. » Merci à toi. Bon, les amis, voilà pour ce matin. Revue de presse un peu courte. Voilà. J'ai un Teams à 12h30, moi, pour préparer un truc, là. J'ai un petit temps... Je vais voir Moziman, un DJ, aussi, cet après-midi, pour un petit truc. Ça va être cool. J'ai une passionnante réunion de copropriété à 18h30. Ça, c'est fascinant, ça, les réunions de copro. Non, mais en vrai, c'est cool, parce que j'ai des voisins qui sont super sympas. Voilà. Mais donc, j'ai ça. Et puis ce soir, il y aura un peu de gaming et il y aura la suite. Exactement, une histoire de Dream Track, exactement. Il y aura la suite de Dispatch, le jeu auquel on a joué lundi et mardi, qui était cool. Voilà. Mais là, je vais me changer les idées. Je vais cut le live et je vais me faire deux ou trois petits deathmatch sur Valo. Parce que la vie continue. Voilà. Merci les amis. Amis de TikTok, merci d'avoir été là ce matin, d'avoir été aussi nombreux. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain matin dans la revue de presse, 9h midi, hein, comme tous les matins. Donc merci pour ça. Et puis, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch ce soir pour le gaming, aucun problème. Merci encore. Des bisous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux que vous aimez pas aussi. De ceux qui pensent comme vous, de ceux qui pensent pas comme vous aussi. À demain. Des bisous. Amis de Twitch, bah nous on va faire un truc en plus. Nous on va faire un raid bien sûr. Qui est en live actuellement ? Hein ? Oh ! Ah j'adore. J'ai une petite idée là. Ah ouais, c'est trop cool en vrai. Bah, je vois l'ami, les amis, je vois l'ami Trinity qui a repris son Trinity trip, son tour du monde. Là, elle est passée en France quelques jours, elle est venue dans Simplay et là, elle est partie en Asie cette fois. Elle est au Vietnam. Hein, c'est son, voilà, elle vit un rêve là, dans son Trinity trip. Voilà, elle nous fait découvrir des sociétés, des pays. C'est quelqu'un de passionné. Elle est en live au Vietnam là. Voilà, et ben on va la rejoindre. Je trouve ça super. Let's go. Trinity. Hop, ça va nous changer un peu les idées. Moi, je vais aller mettre des têtes sur Valo. Let's go. Let's go. Amis, merci. Merci pour ce matin. Je vous souhaite une belle fin de journée. À ce soir, je crois, 20h30, pour la suite de Dispatch, ce jeu qui est génial avec deux derniers épisodes. Et puis, bonne journée d'ici là. C'est vraiment sympa ce que fait Trinity. Allez, let's go. Bye bye. À tout à l'heure. Des bisous. Ça part dans 5, 4, 3, 2, 1. On va au Vietnam.
Des standards qui s'installent à grande échelle, puisque tout le monde y a accès à grande échelle.
Coffee. Avec des petites glaces mignonnes.
Et waffle ice cream.
Vas-y, allez hop. Vas-y, vas-y.
C'est quoi ce café?
Salut Anne Boline, coucou Diallo. C'est un truc de café aussi.